9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. 3 semaines après la réélection d'Emmanuel Macron, on ne connaît toujours pas son ou sa première ministre. Un cas unique dans l'histoire de la Ve République, mais il faut dire que la période elle-même est assez exceptionnelle, comme on va le voir tout de suite avec Jean-Pierre Jouyet, qui connaît bien les rouages de l'État, mais aussi nos 3 derniers présidents de la République. Je recevrai ensuite le journaliste Mathieu Delahousse, qui couvre le procès des attentats du 13 novembre pour l'Obs, et qui, dans son livre Le prix des larmes, s'est demander combien vaut une vie détruite par le terrorisme. Il va nous répondre et l'on terminera l'émission avec Florent Parmentier. C'est un spécialiste de la Moldavie, ce petit pays voisin de l'Ukraine vers lequel tous les regards sont tournés en ce moment. C'est aussi le seul intellectuel français qui s'intéresse au concours de l'Eurovision dont la finale a lieu ce soir. Il va nous dire pourquoi.
Europe 1.
Bonjour Jean-Pierre Jouyet.
Bonjour.
Vous avez été haut fonctionnaire, vous avez 40 ans d'expérience, on peut le dire, au cœur du pouvoir. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, dont vous êtes l'ami intime, et vous êtes considéré comme le mentor d'Emmanuel Macron, que vous avez connu à l'inspection des finances, et dont vous avez poussé la nomination au ministère de l'Économie et des Finances. Vous venez de publier chez Albin Michel « Notre vieux royaume », vous y racontez les permanences de l'histoire de France jusqu'à nos jours. Or, nous trouvons aujourd'hui dans une situation quand même assez unique avec un président de la République qui vient d'être réélu mais qui tarde à nommer un Premier ministre alors que l'on sort à peine du Covid, qu'il y a la guerre en Europe, que le pouvoir d'achat s'érode, que l'inflation repart, que les taux d'intérêt remontent, que la dette publique est énorme et que les législatives approchent. Est-ce qu'on a déjà connu ça ?
Non, vous l'avez dit, je crois que c'est la première fois sous la Ve République que l'on a, j'allais dire, des délais aussi longs de nomination de premier ou première ministre. Vous l'avez également souligné, c'est la première fois que nous trouvons dans un ensemble aussi exceptionnel, que ce soit au niveau international avec la guerre en Ukraine, que ce soit au niveau économique avec tout ce qui est la remontée de l'inflation et des taux d'intérêt dans l'ensemble des économies américaines et européennes, avec les conséquences qu'a sur l'économie toutes les sanctions qui sont prises contre la Russie et les défauts d'approvisionnement qui existe notamment dans le monde agroalimentaire, comme vous le savez. Et enfin, troisièmement, c'est que nous nous trouvons devant un paysage politique que nous n'avons pas non plus connu au niveau national sous la Ve République, c'est-à-dire avec une sorte de parti ou de majorité centriste, on le verra après les élections législatives, et puis d'un autre côté, 2 extrêmes qui sont extrêmement forts, que ce soit le Rassemblement National ou la France Insoumise. Et ça, on ne l'a pas connu non plus.
Pourquoi Emmanuel Macron prend autant de temps pour nommer un Premier ministre, à votre avis ?
Parce que je crois, tout en n'étant pas bien sûr dans ses confidences, qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, ce sont les circonstances que je viens de décrire. Et ce qui est également important, c'est d'avoir une personne comme Premier ministre qui anime un gouvernement qui ira des sociaux-démocrates aux républicains, voire à des personnes plus à droite également que les républicains. Donc il va falloir animer une équipe très composite et bien sûr à parité.
Tout en n'oubliant pas qu'Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un gouvernement resserré. Il va encore plus compliquer les choses.
Ce qui complique encore plus les choses, et il a tout à fait raison, parce qu'un des défauts du gouvernement actuel, c'est la multiplicité des ministres qui ne sont pas connus des Français. Or, il faut absolument qu'il ait dans son gouvernement des élus et des élus locaux qui incarnent les différentes spécificités françaises et notamment tout ce qui incarne la France rurale où, comme vous l'avez vu, le Rassemblement national était majoritaire. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il doit prendre son temps. Et la seconde, qui est plus politique, c'est qu'évidemment, il a intérêt à former son équipe de la manière la plus proche possible des élections législatives, de façon à assurer une majorité qui puisse suivre ce nouveau gouvernement.
Mais il ne faut pas que ce nouveau gouvernement parte dans toutes les directions à la fois. Et en même temps, on se dit, est-ce qu'il doit être dirigé contre l'opposition de gauche ou contre l'opposition de droite ? Ça semble plus compliqué cette fois qu'il y a 5 ans.
Oui, c'est plus compliqué cette fois qu'il y a 5 ans, pour 3 raisons. La première, c'est que la majorité sera plus composite qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, vous aviez une majorité En Marche seule. Là, vous aurez une majorité, comme je vous l'ai dit, avec le Modem, avec Horizon et Édouard Philippe, qui comptent. Et troisièmement, avec des Républicains et des sociaux-démocrates qui se seront ralliés à Emmanuel Macron. Cette majorité au Parlement, elle devra aussi trouver les moyens, surtout, de faire en sorte d'avoir une ligne claire avec différentes sensibilités face aux extrêmes à un moment où la situation économique et financière va quand même être beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'elle ne l'était, bien évidemment, il y a 5 ans.
On a l'impression que le président de la République redoute un peu ces législatives. Or, depuis le quinquennat, ces élections sont devenues une formalité. Les Français octroient une majorité au président élu quasiment de façon automatique.
Vous l'avez vu aussi lors de la présidentielle, ça n'a pas suscité le même intérêt de la part de nos concitoyens que les autres élections présidentielles sous la Ve République. Donc il faudra absolument qu'il puisse, incarner davantage les réalités des Français à un moment où, je le répète, la situation économique va être plus dure. Hein. Tout ce qui est hausse des prix, hausse des taux d'intérêt. Je reprends ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France. Il a indiqué qu'il faudrait que l'on soit à un déficit de 2% en 2024. On est à près de, on est à 6% aujourd'hui. Donc ça va être un effort budgétaire considérable alors que l'on engrange toujours des dépenses. La dette continue à augmenter alors que les taux d'intérêt sont aussi élevés. Donc ce qui veut dire qu'au niveau européen, puisque Emmanuel Macron se retrouve après le départ d'Angela Merkel et le Brexit, va se retrouver quand même le leader européen le plus important, il faudra qu'il fasse extrêmement attention à ce que l'Europe, qui s'engage plus fortement aux côtés de l'Ukraine en termes de défense, mais qui donc dépense davantage, va demander à ce qu'on revienne à une situation économique et financière plus stable dès la fin de l'année 2022.
Oui, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir hein, quand on est un Français aujourd'hui. On fait une pause, Jean-Pierre Jouyet, j'ai d'autres questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Jouyet qui publie « Notre vieux royaume » aux éditions Albin Michel. Alors dans « Notre vieux royaume » aujourd'hui, on entend Emmanuel Macron qui continue de parler avec Vladimir Poutine au téléphone et qui n'est pas forcément très populaire auprès de Volodymyr Zelensky et des Ukrainiens. On a pourtant choisi notre camp dans cette guerre, non ?
Mais on a choisi notre camp et on sait qu'elle sera longue. Elle sera longue pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que les objectifs russes Donbass, j'irai jusqu'à Odessa, sont quand même assez clairs. Deux, qu'il y a des crimes sur des populations qui sont commises. Et trois, que Américains et Européens renforcent très fortement l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne n'est plus ce qu'elle était. C'est une armée qui est devenue, de par les soutiens américains et européens, une armée extrêmement forte. Donc, il n'est pas dit qu'en dépit des conversations qu'a le président Macron avec le président Poutine, et qui sont tout à fait normales, parce qu'il faut quand même essayer de trouver une voie aussi diplomatique, il apparaît très difficile que l'on puisse s'en sortir rapidement, parce qu'il n'est pas évident que l'Ukraine accepte même un cessez-le-feu sur les bases que je vous ai décrites et que souhaite la Russie.
Ce qui risque d'être long aussi, c'est qu'à partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun. C'est pratiquement la seule bonne nouvelle du moment. Alors qu'en Chine, la population de Shanghai est sévèrement confinée chez elle, que ça pose des problèmes économiques, pas seulement en Chine, dans le reste du monde, y compris en France. Et ça aussi, ça risque d'être long.
Mais ça aussi risque d'être long. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui est enjeux économiques et commerciaux vont être très forts, parce que on est confronté à une, j'allais dire, à une double réalité et à un double engagement quelque peu contradictoire du président et de la majorité. C'est-à-dire, on veut, et c'est normal, relocaliser des activités en France et avoir le plus possible d'activités pour réduire justement nos déficits commerciaux qui sont parmi les plus élevés en Europe. Et deuxièmement, on veut faire cette réduction-là alors que l'on n'a pas justement les moyens de s'approvisionner, que ce soit venant de Chine, venant de Russie ou d'Ukraine, dans différents secteurs, que ce soit l'industrie ou que ce soit, vous l'avez vu, tout ce qui concerne l'agroalimentaire et l'agriculture, alors qu'on est quand même une grande puissance agricole.
Et puis il y a l'inflation et le retour de l'inflation. Tous ceux qui ont vécu les années 80, les années 70 et 80 s'en souviennent, évidemment. Mais pour tous les autres, c'est quelque chose d'assez nouveau.
Oui, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est quelque chose qui fait que là aussi, ça complique la situation pour le président et pour le gouvernement. Parce que lorsque vous annoncez de nouvelles mesures, il y en a encore eu cette semaine, et que vous annoncez de nouveaux engagements financiers, eh bien, les citoyens ont du mal à percevoir concrètement ce que cela signifie, parce que c'est pris par des hausses de biens de consommation, par des hausses de prix d'essence, par des hausses de prix alimentaires, et une réduction du pouvoir d'achat, et ils ont moins, et par des hausses également de taxes que vous pouvez rencontrer au niveau local ou national.
Jean-Pierre Jouyet, je l'ai dit, vous avez bien connu les trois derniers présidents de la République. Pourquoi est-ce qu'on veut être président de la République? On a l'impression que ce ne sont que des ennuis. On a l'impression que la moitié de la France, voire plus, va vous détester. Et qu'en plus, vous n'aurez jamais de répit. Jamais, pratiquement, je vais dire bêtement, jamais un merci.
Vous pouvez parfois avoir des merci et vous pouvez toujours souhaiter entrer dans la légende. Et là, je reprends notre vieux royaume. Je ne connais pas dans l'histoire de France de personne qui n'ait pas voulu être roi de France ou diriger la France, parce que c'est quand même un des grands pays européens et un des pays qui a le plus d'influence en Europe et tout. Et on sait la somme d'ennuis que l'on a, mais ce sera le cas d'Emmanuel Macron dans un second quinquennat qui sera difficile, il voudra très certainement laisser sa trace dans l'histoire. Voilà pourquoi.
Mais c'est encore plus difficile qu'avant. Même si on parle de monarque républicain aujourd'hui, Emmanuel Macron a beaucoup moins de pouvoir que n'en avait le général de Gaulle, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Europe, parce qu'on n'a plus le pouvoir sur notre monnaie, parce qu'il y a une Assemblée européenne qui prend des décisions, une Commission européenne qui prend des décisions. Donc, il a moins de pouvoir que le général de Gaulle, qui lui-même en avait moins que Louis XIV.
Oui, je réponds oui avec une certaine prudence, parce que Louis XIV avait quand même des contre-pouvoirs, avait quand même des féodaux, avait quand même des intendants, et ça ne se réglait pas toujours par voie diplomatique lorsqu'il y avait des conflits avec la Germanie, avec la Prusse, ou au moment de la guerre de succession d'Espagne. Premier point. Deuxièmement, le général de Gaulle, et c'est la grande différence, le général de Gaulle véritablement, lui, se concentrait sur les enjeux internationaux et sur la première partie de son quinquennat sur les grands enjeux nationaux. Et
oui, il laissait travailler le gouvernement.
Voilà. Et je veux dire, de 1965 à 1968, il y avait quand même un homme qui gouvernait et qui s'appelait Georges Pompidou.
Merci Jean-Pierre Jouyet. Votre livre s'intitule « Notre vieux royaume ». Il vient de paraître aux éditions Albin Michel. On fait une pause, on a rendez-vous avec Mathieu Delahousse et une question. Comment réparer les préjudices subis par ceux d'entre nous qui ont été frappés directement ou indirectement par les attentats terroristes ?
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Mathieu Delahousse.
Bonjour.
Vous êtes un ancien d'Europe 1, aujourd'hui journaliste à l'Obs. Et alors que vous couvrez le procès des attentats du 13 novembre, qui entame sa dernière ligne droite, hein, les plaidoiries des parties civiles débuteront le 29 mai, le verdict est attendu pour le 29 juin, eh bien vous publiez le Prix des larmes aux éditions de l'Observatoire. Vous avez enquêté pendant 2 ans sur une question qui peut paraître cynique ou secondaire, mais qui ne l'est pas. Combien vaut une vie détruite par le terrorisme ? Le principe, pour ceux qui ont été frappés directement ou indirectement, c'est que leurs préjudices doivent être intégralement réparés. C'est un vœu pieux, non ?
C'est un vœu pieux qui correspond à la grande ambivalence que l'on peut avoir quand on est face aux ravages du terrorisme. La grande ambivalence que l'on a, c'est qu'on est en France dans une démocratie malgré tout extraordinaire, puisque la justice passe, mais aussi la réparation passe. On est l'un des rares pays à avoir ce système de réparation intégrale. Ce qui fait qu'on est remboursé de ses frais médicaux, on est remboursé de ses transports, on est remboursé de son préjudice économique. Mais la face amère et très douloureuse dans laquelle je me suis plongé, c'est de voir que cette mise en musique des grandes sonneries aux morts militaires dans les cours d'honneur fonctionne bien, mais qu'en revanche, au niveau quotidien, la réparation se fait de façon très bureaucratique, très difficile. Et le pire du pire, c'est qu'elle en devient, pour certaines victimes, très douloureuse. Et du coup, ce vœu pieux, c'est le choc entre une volonté extraordinaire et un quotidien terrifiant.
Alors le cadre d'abord, la France dispose d'une loi unique au monde, paraît-il, en faveur des victimes du terrorisme. On la doit à Robert Badinter. En 1986, l'État a créé un fonds de garantie permanent contre les actes de terrorisme. La caisse est alimentée comment ?
C'est un processus un tout petit peu compliqué, mais on peut y revenir. Simplement une précision sur la loi Badinter. C'est la grande loi qui permet d'indemniser les victimes d'accidents de la route. Et alors c'est la seule loi que Robert Badinter a laissée avec son nom, c'est celle-ci, alors qu'il a fait bien d'autres réformes. Mais c'est une loi qui est très connue par les juristes. Et 86, c'est effectivement ce qui a suivi les attentats qui ont touché la France. Et ce n'est pas de l'argent de l'État, c'est votre argent qui va aux victimes du terrorisme, puisque vous ne le savez sans doute pas, mais si vous regardez votre relevé d'assurance habitation annuel, chacun d'entre vous qui nous écoutez versez 5,90 €. Et c'est ce qu'on appelle la prime attentat, la taxe attentat. Et c'est ça qui va fournir les millions qui permettent de réparer toutes ces vies.
5,90 € par an, bien entendu.
Alors par an et par contrat.
On se dit que ça devrait bien se passer. Or, ça n'est pas toujours le cas, comme vous venez de le dire. Alors, ça se passe où ? Où siège la juridiction qui indemnise les victimes d'actes terroristes, là où vous avez passé ces 2 ans ?
Oui, alors ça se passe au tribunal de Paris. Ça se passe dans une toute petite salle qui est au 6e étage sur la gauche. On a un peu de mal à la trouver. Elle est très discrète. Il n'y a jamais personne. Et évidemment, elle contraste beaucoup avec les grandes salles d'audience dans lesquelles se déroulent les grands procès terroristes, dans lesquelles on fait effectivement beaucoup de détails sur les accusés et sur les faits qui ont été prononcés. Et cette juridiction, elle est chargée en fait d'arbitrer ce qui s'est mal passé entre les compagnies d'assurance, entre le fonds de garantie et entre ce qu'il faut bien appeler les requérants. Mais les requérants correspondent à toute cette variété de foules anonymes qui sont les victimes des attentats. Donc il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des gens qui étaient mariés, des gens qui avaient des vies plus compliquées, des riches, des pauvres. Et on se rend compte qu'ils se heurtent finalement à une forme de bureaucratie, que la justice doit venir réguler d'une certaine façon, Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête, mais ceux moi qui m'ont le plus frappé, ce sont ces gens qui étaient très proches affectivement, notamment de jeunes enfants qui sont morts à Nice, qui sont morts parfois dans les attentats parisiens, même si effectivement Nice a battu plus de sinistres records dans ce genre de choses. Et ils mettent en avant un lien affectif avec des photos, avec des dossiers, et la loi sèchement leur dit que ce n'est pas possible d'être indemnisé.
Alors effectivement, quand on lit votre livre, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, hein, vous avez assisté pendant 2 ans aux séances, les requérants sont de toutes sortes, les cas que vous racontez sont très différents les uns des autres. On voit bien qu'il y a de tout. Il y a ceux que vous venez de décrire, qui ont perdu quelqu'un qui leur était proche. Il y a ceux qui ont perdu des journées de travail, mais qui, plus que ça, ont perdu le moral. Il y a ceux qui ont été directement touchés, comme ceux qui ont été touchés indirectement.
Oui, c'est la grande palette de la douleur humaine qui n'arrive pas à s'inscrire dans une nomenclature qui est une nomenclature des préjudices que peuvent subir tous ceux qui sont les accidentés de la vie. Et en fait, ces histoires pourraient être très juridiques. Moi, j'ai voulu m'éloigner de cette matière très austère pour m'en servir, entre guillemets, pour raconter à quel point ça raconte notre histoire. Parce qu'en réalité, ces barèmes, qui sont des barèmes extrêmement sérieux, mis en place par des civilistes extrêmement compétents, ils correspondent soit à des accidents de la vie quotidienne, accident de vélo, accident du travail, soit à une autre extrémité qui jusque-là était inatteignable, c'était les préjudices subis par les militaires, bombardements, prises d'otages, etc. Et il se trouve, comme selon une expression restée célèbre, que ces attentats ont fait que la France était en guerre. Et aujourd'hui, on se rend compte que des tas de gens qui avaient des vies absolument ordinaires, je les compare à un moment à des foules sentimentales classiques et pas du tout à l'armée des ombres de Joseph Kessel. C'était pas des résistants, c'était des gens qui allaient à un concert, qui allaient voir un feu d'artifice ou qui allaient boire un verre en terrasse. Et ces gens-là se retrouvent finalement confrontés à des préjudices et à des angoisses que seuls les gens qui étaient face aux bombes jusque-là vivaient. Alors on découvre de nouveaux préjudices, le préjudice par ricochet, qui est assez fascinant. Ce sont tous ces gens qui vivaient en couple, par exemple, avec des gens qui se sont retrouvés au Bataclan et qui désormais se réveillent toutes les nuits en hurlant, qui n'arrivent plus à travailler, qui n'arrivent plus à se concentrer. Et bien, comment vit-on avec cette personne? Comment peut-on être aidé psychologiquement? Ou est-ce qu'on doit être écarté en disant ben non, monsieur, vous n'étiez pas au Bataclan, vous étiez tranquillement chez vous, vous n'avez le droit à rien. Et cette notion d'humanité, il faut absolument la réhabiliter à la hauteur des événements qui se déroulent. Et c'est une réforme qui est en cours, hein, ce qui n'est pas provoqué uniquement par mon travail, puisqu'on a été quand même beaucoup à le souligner, notamment les associations de victimes les premières. C'est de réhabiliter un dialogue et une forme de cohésion commune pour que ce travail de réparation porte vraiment son nom.
Mais qui, pour l'instant, est régi par le code des assurances, au fond. Et comment peut-il en être autrement, Mathieu Delahousse ?
Alors, c'est la bizarrerie, c'est qu'effectivement, c'est géré par le code des assurances, mais c'est aussi géré par des assureurs. Moi, ce que j'essaie de proposer comme réforme, c'est que ça soit effectivement peut-être mis en avant, et la Cour de cassation va aussi dans ce sens-là, par des dispositions qui touchent à la fois le code de procédure pénale et le code civil, mais aussi que les cordons de la bourse, de cet argent, qui encore une fois n'est pas l'argent de l'État, n'est pas un argent ministériel, mais qui est un argent des Français, c'est la nation qui était frappée par les attentats, c'est la nation qui paiera, il y a une notion de connaissance de la prise en charge des victimes, qui est une connaissance d'une forme de rétribution respectueuse qui soit donnée, et qu'il n'y ait pas cette logique qui est un travers professionnel. Tous les professionnels ont des travers, les journalistes en ont énormément aussi, mais les assureurs en ont de façon très marquante, et on les connaît, ces travers. Quand vous avez un dégât des eaux chez vous, vous devez justifier le fait que la moquette qui s'était décollée s'est bien décollée par le dégât des eaux et non pas par un autre problème que vous avez eu 2 ans auparavant et que vous essayez de passer par votre assurance. Alors cette petite anecdote, elle est amusante quand on a un dégât des eaux, elle est beaucoup moins amusante quand effectivement on s'est pris une balle de Kalachnikov dans le bras, quand on n'arrive plus à travailler à Paris parce que c'est la ville devenue la capitale de la douleur, symbole des attentats. Et donc moi je pense qu'il peut en être autrement avec une forme de de bienveillance. Et encore une fois, je n'ai pas, c'est une idée que j'aimais dans le livre, mais qui est une idée qui est portée par bien des professionnels et en réalité par tous ceux qui se penchent sur ce sujet méconnu. Il y a énormément de magistrats, d'avocats, de professionnels, des gens du fonds de garantie qui se penchent là-dessus et qui constatent que quelque chose ne va pas.
Un sujet méconnu, en effet, vous avez raison. Et je renvoie donc à la lecture de votre livre, Le prix des larmes, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci Mathieu Delahousse. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Florent Parmentier. C'est un spécialiste de la Moldavie, ce petit pays dont tout le monde parle, qui ressemble beaucoup à l'Ukraine. C'est aussi un spécialiste de l'Eurovision, dont la finale a lieu ce soir.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Florent Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po. Vous êtes un spécialiste de l'Ukraine et de la Moldavie. Or, tous les regards sont tournés vers la Moldavie en ce moment. Sa situation ressemble beaucoup à celle de l'Ukraine, dont elle est voisine. Et selon Avril Haines, la directrice du renseignement américain, Vladimir Poutine aurait l'intention de l'attaquer bientôt. Quel intérêt aurait-il à le faire ?
Eh bien, la Moldavie, effectivement, si on regarde, c'est un pays de l'ancienne Union soviétique qui a une partie de son territoire, la Transnistrie, qui est située à l'est de la Moldavie, qui est un territoire séparatiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que Tiraspol, qui est essentiellement connu pour son club de football qui a été en Ligue des Champions cette année, qui a eu la bonne idée de battre le Real Madrid, ce territoire a un président, M. Krasnoselski, un parlement, des troupes russes, a une monnaie particulière, et donc existe en quelque sorte de manière quasi indépendante dans les faits, mais dans la pratique, en fait, personne ne reconnaît l'indépendance de la Transnistrie. Donc l'un des intérêts pour la Russie, c'est effectivement de jouxter cette région-là, de s'emparer d'Odessa, qui est le point prioritaire et la focale centrale en réalité, c'est-à-dire de priver l'Ukraine de ses débouchés sur la mer Noire, et pourquoi pas d'aller récupérer la Transnistrie. C'est l'objectif, effectivement, que les Américains prêtent aux Russes dans cette affaire.
La Moldavie a une présidente, Maia Sandu. Elle est pro-européenne, elle ?
Oui. Maia Sandu a été élue il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui été formée dans des grandes universités internationales et passée par Harvard, par des postes de haute responsabilité dans les organisations internationales. Et elle a choisi effectivement de retourner en Moldavie pour s'engager dans le champ politique et aujourd'hui être une présidente qui doit faire face à une situation effectivement particulièrement épineuse pour un État qui, il faut le rappeler, finalement aujourd'hui compte moins de 3 millions d'habitants.
La Moldavie donc est dans une situation assez proche, assez similaire de l'Ukraine ou de la Géorgie.
Il y a des points de similitude. Si on compare le fait que ces trois États, par exemple, veulent se rapprocher de l'Union européenne, il y a des similitudes aussi dans le fait que ces trois États ont un territoire qui se revendique de la Russie ou souhaite se rapprocher de la Russie. Mais il y a des points de différence également. L'un des points essentiels par rapport aux deux États que vous avez mentionnés, la Géorgie et l'Ukraine, c'est que la Moldavie, dans sa constitution, c'est l'article 11, est un État neutre. C'est-à-dire que la Moldavie ne réclame pas de faire partie de l'OTAN. Elle ne le réclame pas depuis la fin de son conflit de 1992.
Entre
la Transnistrie et la Moldavie. Conflit qui, finalement, n'a duré que quelques mois entre mars et juillet, qui a été beaucoup moins intensif que celui auquel on assiste aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que le fait de revendiquer cette neutralité de la part de Moldavie fait que cet État n'a pas connu de rechute ou de crise violente. Les dirigeants moldaves sont persuadés que l'avenir, la solution au problème de la Transnistrie sera une solution politique et non une solution militaire.
Et le 9 mai à Chișinău, la capitale, des milliers de pro-russes ont affiché leur soutien à Moscou.
Oui, il y a une opinion publique en Moldavie qui est partagée en réalité. Partagée tout simplement parce que le jeu politique s'est structuré non pas par rapport au point de retraite qu'il fallait se décider, ou l'âge de part ou de pivot, mais c'est décidé par rapport à une orientation qui est celle de savoir si la Moldavie, cet État qui se cherche, doit aller du côté de la Roumanie, de l'Union européenne, ou doit aller plutôt du côté de la Russie pour assurer les fondamentaux, c'est-à-dire son développement. Et de ce point de vue-là, on sent bien qu'il y a des fractures au sein de la société moldave, que certaines minorités, les Gagaouz, on ne peut pas les citer, dans le sud du pays, sont très favorables à la Russie, qu'il y a des russophones qui sont très présents, mais on sent qu'il y a une volonté de Maia Sandu d'être en quelque sorte une grande conciliatrice. L'idée étant pour Maia Sandu qu'on va aller vers l'Union européenne, on souhaite s'en rapprocher, mais aller vers l'Union européenne ne veut pas dire nécessairement vouloir chercher à tout prix à se s'éloigner de tout ce qui est russe. Et on le voit bien, par exemple, sur un élément très important. Vous avez parlé des grandes manifestations du 9 mai. C'est la date symbolique dans l'espace post-soviétique du 9 mai 1945, etc. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il a été question, effectivement, à un moment, pour les autorités moldaves, d'interdire le ruban de Saint-Georges. C'est ce ruban qui, finalement, de l'Empire tsariste à l'Union soviétique à aujourd'hui, finalement, symbolise l'idée nationale russe. Elle a pris soin de l'interdire, mais en ne prenant effet qu'après le 9 mai, de manière à permettre aux pro-russes de pouvoir malgré tout manifester, tout en envoyant quand même des signaux qui sont que la Moldavie ne souhaite pas être, absorbée par le conflit ukrainien, dont elle sent bien finalement qu'elle le dépasse de loin. Donc ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la vulnérabilité de la Moldavie, mais ça ne changera pas en quelque sorte. Ce ne sont pas les quelques MiG restant en Moldavie qui, de plus ou de moins, permettront à la Moldavie d'échapper ou de se défendre en cas d'attaque militaire effectivement russe complète. En revanche, la Moldavie joue plutôt dans l'idée de se, en quelque sorte, de ne pas s'antagoniser la Russie partout, de ne pas suivre par exemple, les sanctions européennes. Parce que si elle ne suit pas les sanctions européennes, ça n'empêchera pas la Russie de faire ce qu'elle fait, mais si elle suivait les sanctions européennes, eh bien, ça donnerait un argument à Moscou pour dire « vous voyez que c'est un régime hostile ». Donc c'est tout ce jeu d'équilibre un peu subtil auquel les dirigeants moldaves finalement essaient de répondre.
Que nous suivrons donc attentivement dans les jours qui viennent. Ne partez pas, Florent Parmentier. On va maintenant parler de l'Eurovision. Vous en êtes également un spécialiste et justement, c'est ce soir.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
C'est le 66e concours de l'Eurovision de la chanson. La finale est retransmise ce soir sur France 2 en direct de Turin. Florent Parmentier, vous n'êtes pas seulement le secrétaire général du CEVIPOF, vous n'êtes pas seulement spécialiste de la Moldavie et de l'Ukraine, vous êtes également l'un des rares intellectuels français à vous intéresser à l'Eurovision. Pourquoi ?
L'Eurovision, c'est un spectacle de qualité tout à fait inégale. Ça, on peut tous se mettre d'accord probablement sur ce point-là, mais qui concerne 200 millions de personnes. Et quand on y pense, des événements mondiaux qui concernent 200 millions de personnes sont assez rares. Les Coupes du Monde de football, oui, c'est les Jeux Olympiques. Et derrière, en termes de manifestations qui ressemblent à quelque chose de culturel, l'Eurovision est de loin le spectacle le plus grand public. Alors évidemment, c'est plus de la culture populaire que de la haute culture, sans doute. Mais je pense qu'on peut voir à travers l'Eurovision, à travers la masse que cela représente, un peu le reflet d'une sorte de miroir déformant de l'identité européenne. Et donc c'est ce miroir déformant qu'on peut observer et qui dit un certain nombre de choses sur l'élargissement de ce format de concours, élargissement ou approfondissement. C'est un vieux débat qu'on retrouve dans les études européennes qui m'ont beaucoup occupé. On retrouve finalement énormément de questions sur ces nations qui ont besoin d'avoir ce type de moment particulier pour exporter leur image. La France à l'Alliance française depuis les années 1880, l'Italie a ses propres relais culturels, un certain nombre de pays ont leur relais, mais finalement pour un certain nombre de pays du Nord ou de l'Est ou du Sud de l'Europe, ce sont aussi des moments à partir duquel on peut valoriser une forme de culture nationale.
D'autant plus que chaque pays dispose du même nombre de voix, hein, quelle que soit sa taille et l'importance de sa population.
Oui, c'est aussi un moment d'égalité formelle. Absolue, un peu comme à l'ONU. C'est-à-dire, chacun représente effectivement le même nombre de points, quel que soit le nombre d'habitants. Saint-Marin, ce soir-là, joue pour autant de points que l'Allemagne. Avec une petite nuance, effectivement, qui est qu'il y a 5 États, malgré tout, les grands, les 5 grands qui financent l'Union européenne de radiodiffusion, eux sont des membres permanents. C'est un peu les membres permanents du Conseil de sécurité. Chaque année, ils reviennent. Ils peuvent faire zéro d'une année, mais ils seront toujours là. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne.
Voilà, quel que soit le niveau, on sera toujours qualifié. La Russie, qui était organisatrice en 2009 à Moscou, a été bannie cette année. Mais l'Ukraine, elle, est qualifiée pour la finale. On l'a dit d'ailleurs, certaine de l'emporter.
Oui, hélas, c'est là où la dimension, la dimension artistique est certainement contrebalancée par le contexte géopolitique de l'époque. Pourquoi ? Parce que L'Ukraine a produit un certain nombre de chanteurs pop qui seraient tout à fait éligibles pour ce type de victoire. Elle a d'ailleurs remporté par le passé. Mais probablement, cette année, ce qui l'emportera surtout, c'est en quelque sorte un devoir de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, à moindre coût, j'ai envie de dire.
Mais l'Eurovision a été, depuis longtemps, en fait, un terrain d'affrontement entre la Russie et l'Ukraine.
Ça a été un terrain d'affrontement entre l'Ukraine et l'Ukraine. Il faut savoir que c'est un concours qui se veut avant tout apolitique. Il faut se souvenir de cette
comme
chanson...
Comme les Jeux Olympiques, mais personne n'y croit.
De cette chanson, effectivement, géorgienne, pour prendre un exemple... I don't want a Poutine. Je ne veux pas. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose.
C'était anglais, hein, mais ça sonnait comme Poutine.
Il faut voir, voilà, que phonétiquement, c'était quelque chose qui avait été refusé. Après, il faut voir que dans le contexte particulier que nous vivons, oui, c'est-à-dire pour le moment, l'Ukraine mène 2-1, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a un jeu de chasse et croisée. Alors, paradoxalement, il est vrai également que depuis que et l'Ukraine et la Russie puissent voter, eh bien les deux États se sont pendant très longtemps distribués des points extrêmement généreusement. Pour cette année, nous ne savons pas. D'ailleurs, la Biélorussie également a été exclue. Donc nous ne savons pas ce qu'il en sera quand la guerre
exemple,
sera terminée.
Si la Suède et la Finlande, qui veulent toutes les deux adhérer à l'OTAN, sont qualifiées pour la finale ce soir, c'est un hasard à votre avis ?
Ce sont des pays avec une forte culture de l'Eurovision. Alors, qu'est-ce qu'une culture de l'Eurovision ? Ce sont tout simplement, on parle notamment de la Suède. La Suède est un État qui a une industrie musicale bien établie. Ils ont même en matière d'industrie culturelle et créative, ils ont aussi la présence de grands acteurs en la matière.
Donc, et puis, il y a le passé de ABBA.
Effectivement,
a fait une carrière mondiale grâce à l'Eurovision. Et ABBA, ils sont suédois.
Et Waterloo n'a pas été perdu pour tout le monde. Effectivement,
oui, c'était le titre de la chanson.
C'est effectivement, voilà.
Et la France, alors la France, en revanche, on a l'impression, est toujours à côté de la plaque.
Alors, on pouvait le dire jusqu'à l'an passé. L'an passé, la candidate française avait... très très bien figuré, puisque nous avions terminé deuxième. Pendant longtemps, on a dit qu'il était impossible pour un Français de l'emporter, puisqu'il y avait un problème linguistique. Seules les chansons en anglais, dans une période de mondialisation dominante, étaient les bienvenues. Il faut constater que l'an passé, linguistiquement, on a eu pour la première fois un renversement. Champion italien, et puis deux tubes en français derrière. Ce qui en soi, voilà, est un élément intéressant. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la langue. Parce que différentes langues ont déjà gagné au sein de l'Eurovision, et l'année dernière, Barbara Pravi était à même de l'emporter également. En tout cas, elle n'était pas très loin. Ce qui compte, c'est d'avoir cette culture de l'Eurovision. C'est de se dire que l'Eurovision, c'est à la fois un spectacle scénique, c'est un spectacle musical, c'est aussi un jeu d'influence. On travaille une candidature, il faut travailler une candidature plusieurs années à l'avance si on veut qu'elle ait une chance. Il faut l'amener dans un certain nombre d'endroits où il faut être vu pour faire monter sa cote auprès des parieurs. Et en montant sa cote auprès des parieurs, eh bien, on a davantage de chances d'apparaître dans la discussion. Et donc, tiens, on va s'intéresser cette année à la candidature française. Et alors, ce qui est amusant, c'est que une candidature qui marche très bien une année, puisque l'année dernière, on avait cette forme de mimétisme avec Edith Piaf, qui dans la culture populaire européenne évoque encore quelque chose, eh bien, il ne marche pas chaque année. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez trouvé quelque chose qui a bien marché l'an passé qu'il faut nécessairement, pour les 50 prochaines années, envoyer Edith Piaf ou des épigones de Barbara. L'idée, c'est précisément de pouvoir surprendre. C'est ça, en fait, cette fête particulière de l'Eurovision.
Merci, Florent Parmentier. Merci. J'imagine que vous serez devant votre poste. Donc, ce soir, vous regarderez France 2.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Et Pierre de Villeneuve vient d'entrer dans ce studio. Vous avez en effet rendez-vous avec les grandes voix. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Quel
Frédéric.
Est le programme ?
Eh bien, nous allons parler des législatives qui approchent du pouvoir d'achat qui est toujours au cœur du débat politique, de la guerre en Ukraine, des forces qui se concentrent sur Odessa et puis de la reine Elisabeth II, tiens, qui a séché le discours du trône. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour la suite ?
Merci Pierre, bonne émission.
Merci. Europe 1.